Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, et nous recevons notre confrère, rédacteur des pages culture de l'excellent magazine Causeur, et qui est également écrivain, Jonathan Sixou, qui publie chez Perrin, Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas, de Saint-Louis recevant Henri III, au dîner de Noël offert par Emmanuel Macron, aux militaires en opération, 20 scènes de table qui racontent 1000 ans de pouvoir, diplomatie, de gastronomie française, au moins Macron n'aura plus qu'un seul dîner de Noël à faire. Jonathan, bonjour.
Bonjour Arthur.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Eh ben ça va. Alors, vous savez, avant de commencer, on a une tradition, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
Et c'est vous !
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Quelle est l'odeur de bouche qui vous donnerait envie d'envahir la Pologne ?
Une odeur de truffe, de volaille en demi-deuil, bien rôtie. On sent que les chairs et le jus de la volaille s'est imprégné de cette truffe et de l'odeur du fumé d'une purée de pommes de terre elle-même archi-truffée. Ça, c'est formidable.
Et celle qui vous ensorcelle au point que vous pourriez voter Hidalgo si elle se présentait à la présidentielle ?
Alors, le premier passage de la question est une odeur qui est associée à un souvenir d'enfance, qui est l'odeur de langoustes grillées. Quand j'étais enfant, on allait en Grèce et les pêcheurs, vraiment, il n'y avait rien de luxueux là-dedans, et sortaient de la mer ces magnifiques langoustes et nous les grillaient comme ça, même le porc. Et cette odeur de carapace.
Rien de luxueux. Sortie de langoustes.
Non, mais à l'époque, du moins, dans les petits villages de pêcheurs en Grèce, c'était ça. Et cette odeur opère encore sur moi comme un filtre magique. Mais si, dans la balance, il y a le vote Hidalgo, je préfère me boucher le nez.
Si Emmanuel Macron était une entrée.
Ce serait, vous savez, ces millefeuilles ou carpaccio de tomates, plat signature, entrée signature du chef. C'est-à-dire, c'est tout simplement une salade de tomates, ce qu'il y a de plus basique. Et c'est simplement un produit survendu.
Si Jean-Luc Mélenchon était un plat.
Ce serait une barquette de master poulet, ou pire, de Tasty Krusty, la malbouffe de la Nouvelle-France.
Tasty Krusty, c'est pire que master poulet ?
Ah oui.
D'accord.
J'ai goûté.
Si Marine Le Pen était un dessert.
Ce serait une conversation. Une conversation, c'est ce qu'on appelle une pâtisserie de boulanger. Et on les pensait disparues, et ces pâtisseries de boulanger refont leur apparition dans les vitrines.
Si Édouard Philippe était un fruit de mer.
Ce serait un bigorneau. Parce qu'on met du temps à le chercher, puis quand on l'a trouvé au fond de la coquille, on est très déçu. C'est tout petit, c'est fade. Il faut forcément l'accompagner de quelque chose.
Si vous deviez convoquer 5 personnages, morts ou vivants, pour un dîner.
Alors, ils sont tous morts. Ceux que je convoquerais à ce dîner idéal, ce serait Sacha Guitry, Malaparte, Talleyrand, Churchill, et je place à ma droite, à ma gauche, Jules Renard.
Quel est le légume, le plus sous-coté ?
Alors, il n'est pas si sous-coté que ça, mais il est très commun, c'est-à-dire qu'il ne coûte pas cher généralement et on le trouve partout, c'est la pomme de terre. Et c'est l'un des meilleurs légumes qui soit, parce qu'avec une pomme de terre, avec des pommes de terre, on peut faire une infinité de recettes, et la pomme de terre révèle des saveurs selon la façon que vous la cuisinez. Dans ce sens-là, on peut l'apparenter aux œufs. Il n'y a pas meilleur aliment qu'un œuf qui se prête à une infinité de variations également en cuisine.
On vous sert un plat imbouffable. Vous aimez beaucoup votre hôte. Deux options. Vous laissez votre assiette pleine ou vous la videz dans le sac de votre voisine.
Alors, sûrement pas vider dans le sac de la voisine, parce que ça se fait vraiment pas. J'aime beaucoup mon hôte, si je le connais bien. Je lui dis que franchement, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, même s'il s'est donné du mal. Je goûte, je fais un essai, mais je préfère poliment et gentiment lui expliquer que je ne pourrai pas finir.
La faute de goût ultime au cours d'un repas.
Alors je trouve que c'est vraiment à titre personnel, c'est baffrer, manger très vite, ne pas se soucier du rythme, parce qu'un repas c'est aussi un rythme commun autour d'une table, et c'est vraiment avaler sa plâtrée, et en plus de cela, j'ajoute un second travers, c'est de ne pas dire un mot sur ce qu'on est en train de manger. Parler que de bouffe et que de ce qu'on est en train de manger, ça ne se fait pas non plus. Mais commenter rapidement, même au cœur d'une conversation qui n'a rien à voir avec la nourriture, ce qu'on est en train de manger, c'est tout de même bien plus agréable.
La clope, c'est mieux entre le dessert et le fromage, ou plutôt entre le fromage et le dessert, ou entre chaque plat?
Je dirais que c'est d'abord, ça dépend du temps d'attente entre chaque plat. Quand vous vous retrouvez dans un resto et vous devez attendre 1h30 entre deux plats, la tentation de la cigarette se fait sentir. Mais c'est vrai que la cigarette qui vient clore un repas complet est bien, bien agréable aussi, surtout.
Enfin, fondamentale et dernière question, le verre de trop, c'est quand?
C'est quand on ouvre une nouvelle bouteille après le fromage.
Ah bon?
Ou après le dessert.
Personne n'est d'accord pour réussir à le repérer. Je tiens à dire à nos auditeurs que Arthur de Vatrigan sait où est le verre de trop, mais il nous l'indique mal, on l'oublie.
Non, j'avais hésité à une autre réponse, sinon, mais oui. Celle-ci était la plus convenable, me semble-t-il. Mais le verre de trop, c'est quand on le remplit à côté.
Ah, c'est pas mal ça.
Ça, c'est pas mal comme.
Qui reste vide.
Merci beaucoup, alors, Jonathan. Alors, je le disais, en plus d'être un écrivain, vous êtes rédacteur en chef des pages culture de l'excellent magazine Causeur de notre chère et amie Elisabeth Lévy. C'est quoi le magazine de l'été?
Mais je voulais apporter.
Mais nos auditeurs le voient pas, c'est une radio.
Je peux vous le montrer.
Il faut quand même le montrer.
Gentil. Bien, le numéro de l'été, c'est un double numéro, juillet-août, qui met en une deux consoeurs, Eugénie Bastier et Natacha Polony, qui ne sont pas d'accord sur grand-chose.
Et, je montre ici, voilà.
Et qui...
Marianne contre Marianne, elles élèvent le débat.
Et elles évoquent...
Natacha Polony, Eugénie Bastier.
Parfaitement. Et toutes deux évoquent dans un vrai dialogue entre consoeurs et en tout esprit républicain, dirions-nous, elles opposent leurs divergences sur plein de choses. C'est aussi bien les femmes, le féminisme, que même la Révolution française. Natacha Polony n'est pas robespierriste, mais pas loin.
Ça se voit, ça coupe de cheveux.
Et la question, évidemment, de la souveraineté, du souverainisme qui les anime de façon différente un peu toutes deux.
Et en culture, puisque vous gérez les pages culture.
Et dans les pages culture, on trouve, comme chaque mois, plein de choses très variées.
Il a déjà oublié.
Il y a évidemment un magnifique papier, comme chaque mois, de Georges Yarré, qui pour nous chronique les expositions, et qui, dans ce numéro d'été, nous parle des corps, et parce que quelques expositions, deux expositions en l'occurrence parisiennes, mettent les corps à l'honneur. Il y a cette confrontation entre Rodin et Michel-Ange qui est au Louvre. Il y a également, dans un tout autre rapport, mais il est question de corps, à la Fondation Vuitton, une exposition de Calder, une rétrospective de Calder, qui lui réfléchit les corps en apesanteur, à tous les sens du terme. Et c'est aussi une très très belle expo. Mais il y a également, vous l'avez sous les yeux, un très bon restaurant à La Rochelle, qui nous est détaillé par notre critique maison. Et puis, de jolies pages de livres. Et Ceci signé par notre ami Olivier Vial.
Les antifas de l'assiette.
Les antifas de l'assiette.
On va en parler, c'est au programme
c'est
de cette émission.
C'est très très sérieux comme mouvement. C'est-à-dire que manger de la viande, manger du jambon, c'est fasciste en fait.
En fonction de ce que vous mangez, voilà. Vous êtes fasciste ou antifa, mais on va en parler parce que vous parlez de politique et de repas, mais maintenant il y a politique et idéologie en plus. C'est la nouveauté. Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, vous avez 2 mois pour vous procurer le numéro de Causeur. Et puis comme vous êtes dans une librairie ou un relais sympathique, vous allez à droite et vous attrapez l'incorrect en même temps. Comme ça vous fait la lecture pour cet été et la lecture sympa, intelligente, gay, ça va vous mettre en forme et vous allez revenir tout bronzé, tout debout pour septembre, parce que autant vous dire qu'on va se marrer en septembre, parce qu'on va rentrer dans un tunnel de présidentiel. C'est une année toujours excitante, mais toujours décevante à la fois. Mais alors vous savez qu'il est 18h35 et pour une émission spéciale, vous allez avoir pas 2 chroniques, mais 3 chroniques. Alors vous avez déjà eu celle de notre cher Rémi Carlu qui nous a parlé de l'euthanasie. Et là, vous allez avoir 2 chroniques culture pour une près d'une. La première, c'est celle de notre cher Romaric Sangars qui vient de nous rejoindre. Cher Romaric, vous vouliez nous parler aujourd'hui de la moralité des rockeurs. Sujet, j'imagine, très complexe.
Bien, pour le moins, cher Arthur, dans mon enfance, la moralité des rockers se résumait à l'immoralité. En général, un rocker était justement se vanter de son immoralité provocatrice. C'était encore l'époque de sex, drugs and rock and roll. On prenait donc un hédonisme foutraque, dionysiaque, fièrement aveugle et inconséquent. Au fond, les rockers ne prétendaient pas autre chose alors que d'incarner la rébellion de la jeunesse, que de mettre en scène une crise d'adolescence prolongée et explosive, celle des boomers. Et il y avait quelque chose de frais néanmoins là-dedans, d'assez léger, et je suis toujours étonné par les mutations de cette immoralité des rockers qui est devenue aujourd'hui beaucoup plus ambiguë. Il y a peut-être eu, il est vrai dans les années 60-70, une identification du rocker au poète prophète du progressisme, qui a été un relais qui s'est passé comme ça entre différentes disciplines et différents arts, qui ont donné comme ça une mission au rocker qu'il n'avait pas précédemment, qui sortait de son inconséquence joyeuse. Il y a eu aussi un phénomène quant à la moralité des rockers d'une manière générale qui me paraît assez désastreux, et un jour il faudra qu'on en parle d'ailleurs, c'est la rupture des années 80 avec Coluche, et le moment en fait où les intellectuels prescripteurs de morale ont été remplacés par des agents du spectacle, de l'animation publique de masse. Les Balavoine, les Coluche, les Jean-Jacques Goldman ont pris la place de Sartre et Camus, d'une certaine manière. Et inutile de dire que je n'avais pas spécialement ni la vocation, ni l'autorité pour, en même temps que les intellectuels avaient tous plus ou moins promu un totalitarisme ou l'autre pendant un siècle. On comprend aussi qu'on ne croyait pas spécialement à leur autorité non plus. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu ensuite Bertrand Cantat comme rocker moral, immoral, qui a tout de même été le meilleur chanteur de rock de l'histoire de France, d'ailleurs le seul à peu près, puisque de toute façon les Français n'ont jamais été très bons en rock, mais Noir Désir, me semble-t-il, a été quand même un des seuls groupes tout à fait d'envergure et capable de rivaliser avec les anglo-saxons. Et bien cet artistocrate plein de fric et de reconnaissance sociale, adulé par de nombreuses groupies, traité comme un demi-dieu au sommet de la pyramide, ne put évidemment s'empêcher de l'ouvrir pour faire la morale aux gueux, qui n'étaient pas aussi anarcho-socialistes que lui, en dépit de son statut. En 2002, il se fit remarquer aux Victoires de la musique en prononçant un petit discours anticapitaliste bien troussé, qui se terminait par « Nous ne sommes pas dupes de ton manège, et si nous sommes sur la même planète, nous ne sommes décidément pas du même monde », s'était adressé alors au directeur d'Universal. Et comme évidemment après ce coup d'éclat, les ventes de disques de Noir Désir se sont multipliées, son directeur est devenu encore plus riche, mais c'est tout le paradoxe de la subversion capitalistique, et ce qui prouve encore une fois que les rockers sont assez maladroits quand ils essayent soudain de sortir de leur fonction de divertissement de masse un peu subversif. Un an plus tard, en tout cas, Cantat le pur, le chevalier blanc, le sermonneur suprême, tuait Marie Trintignant d'une bonne dizaine de coups dans la gueule. On eût préféré qu'il fût moins avif sur l'ordre social et plus scrupuleux dans l'ordre intime. Mais que voulez-vous, c'était un exemple des limites de ce rôle du rocker donneur de leçons, rocker moral, voilà.
En tout cas, il se trouve que Bertrand Cantat, sorti de prison, a ensuite fait un duo avec le groupe Chaka Ponk. Ce n'est pas un nom de jouet pour enfants transnational, c'est un nom assez ridicule d'un groupe assez ridicule lui-même, donc quelque part c'est un nom approprié. Et en 2011, dans le morceau Palabra mi amor, ce groupe a fait un duo avec Bertrand Cantat, et ce morceau est sans doute le seul morceau intéressant qu'il n'ait jamais fait de leur existence. C'est un très bon morceau, qui est gâché certes par les braillements de Soutina Turner, de la chanteuse, comme quoi il y a quand même des situations précises où il est parfois préférable que les femmes se taisent. Ce qui est un peu dommage dans ce cadre de donner cette impression, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Alors on imaginait à l'époque que Chaka Ponk, en tant que groupe de rock, on imagine engagé, puisque là on n'est plus dans les années 80-90, en 2010 un groupe de rock se doit d'être engagé, surtout si il est français. Eh bien on imagine que ce qui était engagé, c'était de participer à la réinsertion des anciens détenus et donc d'intégrer naturellement Bertrand Cantat dans un morceau son préjugé, de lui permettre de se réhabiliter une fois qu'il avait payé sa dette à la société. Sauf que depuis, les choses ont beaucoup changé et la semaine dernière, le chanteur de Chaka Ponk a fait son mea culpa avec 15 ans de retard en considérant soudain qu'il avait été complètement déplacé de proposer ce duo à Bertrand Cantat. Et donc on l'a vu tenir ce discours dans une très 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 longue vidéo personnelle sur les réseaux où il dit c'était complètement déplacé et grave par rapport à ce que subissent toutes les femmes depuis la nuit des temps. C'était indécent, un grand manque d'éducation. On a fait de la merde et on le regrette sincèrement. À l'époque, la société était très injuste et très patriarcale. Il a fallu qu'on fasse une grosse déconstruction. Donc en fait, il se félicite de sa déconstruction. Ce qui m'étonne toujours avec ces gens qui pourtant, chacun pont, qui sont vieux. Enfin, je veux dire, ils ont mon âge. Ils sont pas. On a l'impression que.
Vous êtes jeune.
Avant MeToo, frapper sa femme, voilà, laisser pour morte après le repas. Était dans les mœurs et finalement, genre, oh, tu as encore tué ta femme, écoute, tu exagères. Je ne sais pas d'où ces gens sortent, qu'est-ce qui leur est arrivé, ou soudain, on leur dit, ah bon, c'est pas bien de tabasser son épouse. Grâce à MeToo, avant, ils ne savaient pas. Je ne sais pas qui les a éduqués, vraisemblablement, mais alors bon, voilà, Chaka Ponk, ces gens se sont totalement déconstruits. Ils parlent même de révolution anthropologique, d'après le chanteur, et donc maintenant, ils s'excusent platement d'avoir fait chanter Cantat. Alors évidemment, on n'est plus aujourd'hui à l'époque de sexe, drogue and rock'n'roll, c'est plutôt véganisme. Puritanisme MeToo et rap plaintif, quoi, on va dire de manière générale, qui domine. C'est un peu moins drôle tout de même. Et en tout cas, pour dire ma perception de la moralité chez les rockers demeure toujours aussi confuse et indistincte. Je remarquerai juste qu'autrefois, les rockers se révoltaient contre leurs parents et que maintenant, ils obéissent sagement aux gamins puritains et fanatisés qui les harcèlent sur les réseaux sociaux.
Merci, cher Romaric. Jonathan Sixou, un rocker déconstruit, c'est un castrat ou c'est un castrat ou c'est juste un naze ?
Un naze, parce que le castrat, ça correspond quand même à autre chose.
Et vous êtes d'accord avec Romaric Sangars, le seul et grand rocker français a été Bertrand Cantat ?
Ça, je n'ai absolument pas les connaissances et la capacité de pouvoir ne serait-ce que converser avec Romaric à ce sujet, parce que j'avoue que pour le coup, je suis davantage baroqueux que rocker.
Ah. Par contre, concernant la bouffe, ça, vous êtes spécialiste. Alors, je rappelle votre livre. Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas, peut éditer chez Perrin. Et chers amis, je vous invite à vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur la plage, c'est parfait. Ça va vous parler de bouffe, donc vous aurez faim. Et en même temps, vous allez apprendre des choses. Donc, pour résumer, vos thèses, tient une phrase dès la muse-bouche. Nourrir un invité de marque, c'est à la fois un gage de reconnaissance... Une affirmation de puissance. Alors, depuis quand en France, le repas devient un acte politique et une affirmation donc de puissance ?
Depuis toujours, j'ai envie de vous dire, parce que depuis toujours, effectivement, recevoir, inviter de façon somptueuse quelqu'un, c'est une démonstration de puissance, de pouvoir. Pourquoi ? Parce que, dans l'histoire, on a rarement mangé à sa faim, et pouvoir offrir un festin à ses invités, c'est une démonstration de pouvoir, parce qu'on a le pouvoir d'offrir des quantités de nourriture qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du quotidien. Donc vous vous placez dans un temps qui n'est pas le temps du quotidien en offrant le festin. Il y a Donc c'est inhérent au pouvoir, et le pouvoir c'est de la politique, quelle que soit l'époque dans laquelle on se place, mais évidemment au fil des siècles il va y avoir un raffinement qui va poindre, et en ce domaine les Français sont à la pointe. C'est-à-dire que si on doit attendre un certain temps avant, même si la table française, la table royale à l'époque médiévale est déjà copiée, c'est un peu le canon, sans mauvais jeu de mots, le canon français qui domine en matière, comme pour les cathédrales, qui domine en matière gastronomique, qui commande les cours d'Europe. Et les Français inventeront bien plus tardivement, au 19e siècle, au début du 19e siècle, le repas, non pas, et ça je le dois, nous le devons à Talleyrand, qui invente le repas non comme le lieu de célébration d'un événement, le festin pour célébrer le passage d'un avant à un après, que ce soit donc une victoire diplomatique ou militaire, que ce soit un mariage, voire même une fête religieuse. Talleyrand invente la table comme le lieu de la négociation d'un événement, ce qui n'empêche pas ensuite que le même événement soit célébré à table. Mais aujourd'hui, ça paraît absolument courant, et ça l'est. Vous entendez aux infos, le chef de l'État a reçu pour un déjeuner de travail un tel ou un tel. Ça n'existe pas avant le Premier Empire. C'est vraiment Talleyrand qui comprend le pouvoir de la table, parce qu'un bon accord, un accord bien négocié, se fait à table. Et Napoléon a parfaitement compris la chose aussi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va aider Talleyrand a acheté en 1803 le château de Valençay pour en faire un lieu uniquement de réception et de diplomatie. Mais donc, si vous voulez, c'est l'alliance historique entre les deux, Valençay étant déjà à ce moment-là donc appelé la table où se fait l'Europe, parce que c'est là que les choses se feront à la table de Talleyrand. Si je parle encore un peu de lui, c'est notamment à Valençay que Talleyrand, en vrai mécène, il va se comporter vraiment comme on parlerait d'un mécène pour un artiste, va subventionner, il n'a aucune limite d'argent, un jeune prodige qui s'appelle Antonin Carême. Et ces deux-là vont cheminer d'une façon assez spectaculaire l'un sera le génie et la puissance pécuniaire, et l'autre sera le bras armé, dirais-je, côté fourneau, en inventant des recettes incroyables qui feront basculer la cuisine française dans ce que, bien plus tard, le chef Michel Guérard appellera une cuisine de civilisation. C'est-à-dire que là, il se passe dans ces années, sous le ciel de France, quelque chose de très particulier. À la fin du XVIIIe siècle, vous avez un amateur de bonne chère qui s'appelle Grimaud de la Reynière, qui lui invente la critique gastronomique. C'est lui qui invente les premières académies d'amateurs, qui se retrouvent autour d'une table régulièrement et qui décide de chroniquer les repas qu'ils mangent et les restaurants, pas encore restaurants, mais auberges et autres tavernes dans lesquelles ils peuvent manger. Vous avez Carême, qui intervient au début dans les années 1800-1820, qui lui conceptualise la cuisine, qui la philosophie, si je puis dire. Il rédige de très nombreux traités pour que déjà son savoir se transmette, mais bien plus que ça, qu'il y ait une vraie philosophie de la gastronomie qui soit enracinée dans la culture française, dans la culture pas que encore populaire, mais c'est engagé sur cette voie. Et puis, quasiment en même temps, dans les années 1830, vous avez un autre homme amateur de cuisine, mais absolument pas cuisinier, qui s'appelle Brillat Savarin, et lui invente ce qu'on peut appeler la sociologie de table. Il est l'auteur de cette fameuse phrase « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Et il élargit même ça aux nations, ce que mangent, et aux destinées des nations en fonction des habitudes alimentaires de tel ou tel peuple. Donc vous avez ce trio, si vous voulez, sans se connaître, vont chacun, d'une façon ou d'une autre, lancer la gastronomie sur la rampe qui va l'emmener dans son niveau interstellaire qu'on peut connaître encore aujourd'hui, un peu.
Et les antifas ont donc récupéré, sans le savoir, la fameuse phrase de Brillat Savarin, parce que si vous vous faites de la côte de bœuf, vous êtes un fasciste. Alors, vous ouvrez votre livre avec le 1254, donc Saint-Louis qui reçoit Henri III, et vous le refermez sur les Noëls des troupes depuis 2017 avec Emmanuel Macron. On a déjà vu des changements, des évolutions, et on va en reparler, mais qu'est-ce qui n'a jamais changé, en fait, en 7 siècles ?
Ce qui n'a jamais changé, c'est le rapport de force, entre guillemets, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le repas comme le repas officiel, le festin, Ce qui ne l'a pas changé, c'est ça, c'est sa puissance d'évocation, sa puissance symbolique. Même si aujourd'hui un festin ne se donne plus entre vainqueurs et vaincus, il y a tout de même, on continue de sceller des alliances diplomatiques, des anniversaires d'alliances diplomatiques, et ça c'est une permanence plurimillénaire. Donc en ça, ça n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé non plus, si on reste évidemment sur la cuisine, la table française, hormis l'importation de mets, et pas forcément de plats, mais de produits nouveaux, je pense à la tomate qui vient du Pérou, ou la pomme de terre également qui vient du Nouveau Monde.
La tomate vient du Pérou ?
Oui.
Ça vient loin quand même, il a fait une sacrée route la tomate.
Et dans de toute l'Amérique centrale, et d'ailleurs, Pomodoro, le nom en espagnol, c'est pomme d'or, les premières tomates n'étaient pas rouges mais jaunes. On les retrouve aujourd'hui, vous savez, ces fameuses vieux légumes oubliés.
Les tomates anciennes.
Tomates anciennes.
Oui, bien sûr.
Et c'est la couleur initiale de la tomate. Ce qui n'a pas changé, ce sont la plupart des produits. Et je me suis rendu compte, parce que je reproduis dans le livre les menus des repas dont je parle, et d'autres également pour compléter le panorama de chaque siècle qui est décrit. Et je me suis rendu compte que finalement, hormis le savoir-faire de tel nécessaire pour élaborer telle ou telle recette, tous les produits, on les a encore aujourd'hui. Les légumes, les viandes, évidemment, les gibiers toujours. La seule chose qui a disparu, même si on peut encore les retrouver, mais plus difficilement en France, ce sont les catégories infinies, les espèces infinies entre guillemets, des poissons de rivière. Il y a eu pendant des siècles, sur les étals des marchés, deux types de poissonneries. Il y avait la poissonnerie d'eau de mer et la poissonnerie d'eau de rivière, d'eau douce. Et parce qu'on mangeait, on respectait énormément de nombreuses périodes de maigre durant l'année. Il y avait plusieurs périodes de carême qui se devaient, en plus d'un simple vendredi, d'être respectées. Et les Français respectaient vraiment cela en l'accommodant à leur goût, et les poissons de rivière étaient innombrables. Et on a trace, je le cite à ce moment-là, effectivement, un marché parisien au XIVe siècle comporte sur son étal de poissons d'eau douce des dizaines de catégories d'espèces de poissons qu'on ne trouve plus parce qu'il n'y a quasiment plus de poissons dans nos rivières françaises depuis fort longtemps.
À part des silures.
À part la silure.
Mais qui bouffe tout.
C'est ça.
Et le brochet qui bouffe tout. Alors après, on fait des poissons d'élevage.
Il y a du poisson d'élevage, mais par exemple...
Truite en France.
Oui, parfaitement.
Gros élevage de truite.
La France ne brille pas par son élevage d'anguilles, par exemple. Les anguilles sont surtout élevées en Asie, mais on trouvait énormément d'anguilles. Il suffisait de mettre une nasse et vous la releviez le lendemain, vous en aviez plein. Et on pourrait faire une longue liste. Mais donc, hormis ces poissons de rivière, d'eau douce... c'est aussi donc une continuité, une permanence à travers les siècles. On mange à peu près la même chose. Et l'histoire de la gastronomie est aussi un temps long. Donc là, on parle de recettes, de cuisine. Mais grosso modo, on a mangé la même chose de l'Antiquité au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça dure 1000 ans. C'est une vaste période. Et de la Renaissance au XIXe siècle. Et du XIXe siècle quasiment à nos jours, je dis quasiment à nos jours, puisque depuis les 100-150 dernières années écoulées, on a vu des révolutions de cuisine et de palais bien plus considérables que les 2000 ans qui les ont précédés.
Rémi Carlu.
Oui, on imagine le banquet médiéval comme étant une grosse table opulente avec beaucoup de gibier, de viande, avec un mélange du salé et du sucré. Où apparemment on n'a pas nécessairement une assiette, ou c'est peut-être une tranche de pain a priori. Est-ce qu'on raconte ? Est-ce que tout ça est vrai ? Et comment, à partir de ce point, s'est structurée la table et le repas à la française pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, avec vraiment la distinction, ces différentes étapes et une certaine manière d'être à table ?
Alors, il y a plusieurs éléments entre la manière de se tenir à table et ce qu'il y a sur la table. Et tout ça prend du temps. Encore une fois, c'est un temps long. Le repas médiéval, là on parle évidemment du festin, du repas de fête. Effectivement, on mange non pas dans des assiettes, il n'y en a pas, mais sur ce qu'on appelle des tranchoirs, c'est-à-dire d'épaisses tranches de pain qui vont absorber les jus des viandes. Il n'est pas destiné à être mangé, ce morceau de pain. Ce qui marque la table médiévale, de fait, la luxueuse table médiévale, c'est la profusion de victuailles, principalement des viandes, effectivement, et avec une notion qui est médiévale elle-même et qui va duré à travers les siècles jusqu'au 19e siècle, en somme, c'est cette profusion jusqu'à être théorisée. C'est ce qu'on appelle le gâchis symbolique. C'est aussi une démonstration de puissance. C'est présenter à table bien plus de nourriture qu'il y a pour les invités, même s'ils mangeaient beaucoup, bien plus qu'il y a pour autant d'appétit. Le gâchis est symbolique parce que, évidemment, la viande n'est pas jetée à la poubelle à l'issue du repas. Les plats qui n'ont été touchés que par les yeux repartent à l'office. Et là, il y a tout un système de redistribution très hiérarchisé, très coordonné, qui existera jusqu'à la veille de la Révolution à Versailles, où on reprend...
Eh oui, la Révolution.
Oui. Une véritable économie parallèle, mais tout à fait officielle, où les plats sont donc séparés. La cuisine reprend ce qu'elle pourrait réutiliser comme viande pour fabriquer des hachis, par exemple, ou des bouillons, des soupes. Et tout le reste va être revendu, et à chaque fois, des grades de plus en plus bas, jusqu'au dernier, jusqu'à ce qu'on appelle les regrattiers. Il y a une rue dans l'île Saint-Louis à Paris qui s'appelle la rue Le Regrattier, qui marque le passage dans cette petite venelle de la présence, en tout cas, d'un regrattier qui revend les restes des restes et des restes. Et ça a une vie très longue, parce que même à Paris, dans le 19e, vous avez plein d'auteurs au 19e siècle qui, racontant le quotidien de Paris et les petits métiers de Paris. Je pense notamment à Alexandre Privat d'Anglemont, qui a écrit Paris Anecdote et qui raconte des choses comme ça très amusantes. Par exemple, ceux qui récupèrent les quignons de pain dans les restaurants et qui, en fonction de l'état, font des croutons ou bien de la chapelure et reconditionnent les bouts de pain. Enfin, ça va très loin, rien ne se perd, comme on dit. Ouais. Et cela est très marquant dès le Moyen-Âge. Ensuite, ce qui est peu connu, c'est le rôle du spectacle. Un festin féodal et ça va perdurer à la Renaissance. Ça n'est pas simplement ce qui se passe à table, c'est tout ce qui se passe dans la pièce du festin. C'est un spectacle continu, je le raconte dans un chapitre consacré au banquet du vœu du faisan. C'est un spectacle d'un raffinement dont on a peine à croire aujourd'hui. Dans le cas du vœu du faisan, on était en plus à la cour des ducs de Bourgogne. C'est la Renaissance avant la Renaissance. Vous avez un art des automates grandeur nature qui apporte des plats, les plats descendent des plafonds, vous avez un mélange d'animaux réels et d'animaux mécaniques, vous avez des chanteurs, vous avez des cachés dans des pâtés en croûte géant, c'est délirant. On pourrait croire que
avant les stripteaseuses.
On pourrait croire, oui, ça peut prévoir présager le gâteau qui s'ouvre. On pourrait croire que c'est un truc complètement délirant. Les chroniqueurs de cour ont un peu trop bu, pour le coup, avant d'écrire. Et en fait, pour ce qui est de la cour des ducs de Bourgogne, nous sont parvenues toutes les factures. Et on se rend compte qu'effectivement, il a bien été commandé une chaîne à un serrurier pour attacher un lion au pied d'une statue d'une femme nulle en jetant de l'hypocrase de ses seins. Il y a également la facture des automates fabriqués par les horlogers hébergés à la cour des ducs de Bourgogne. C'était souvent des horlogers allemands. Voilà, on se rend compte que tout ça tient. Et ça m'a, en lisant et relisant plusieurs fois ces chroniqueurs de cour, pour être sûr que je comprenais bien ce que je disais, ça m'a finalement fait penser à ces tableaux médiévaux où les perspectives sont brisées pour faire rentrer le plus de personnages autour d'une table, le plus de personnages sur un bateau. On se dit, mais comment ça marche ? Et il y avait quelque chose de cet ordre. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est donc le repas médiéval est un spectacle total. Bon, évidemment qu'on mange, évidemment qu'on boit, mais ça s'accompagne et c'est séquencé. C'est-à-dire que il y a une hiérarchie dans les spectacles donnés, et il y a au départ parmi les spectacles, pièces de théâtre, pièces chantées, etc. Il y avait aussi des parties simplement musicales, plus légères, qu'on appelait un entremets. Et l'entremets, avec le temps, est même devenu un plat qu'on mange entre deux plats.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Il est 18h58, nous sommes avec Jonathan Sixou qui vient parce que nous parler de Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas. On apprend plein de choses et on va continuer à en apprendre. Mais vous savez, chers auditeurs, si on peut parler de bouffe à 19h sans avoir encore trop faim et du verre de trop, c'est parce que vous êtes sur une radio libre, une vraie radio libre, c'est-à-dire qui dépend uniquement de vous, et de vos dons. Donc vous écoutez ce message, vous faites un don, un gros de préférence, et on se retrouve tout de suite après.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Jonathan Sixou qui publie chez Perrin cette année triomphée en Festin, une histoire de France en vin repeint. Jonathan qui est également rédacteur des pages culture, rédacteur en chef pardon, des pages culture de l'excellent magazine Causeur qui a en une pour ce numéro double numéro d'été Marianne contre Marianne, on leur pardonne pour le titre, c'est leur côté républicain, un débat entre Jenny Bastier et Natacha Polony, qui est toujours une coupe de cheveux extravagante. Mais vous savez qu'également, c'est l'heure à cette heure-ci de la chronique de Marc Obregon, après celle de Romaric. Vous êtes gâtés, chers auditeurs, c'est Marc Obregon qui va nous faire sa petite chronique et qui va nous parler de, j'ai oublié mes fiches, qui est toujours très pratique.
De l'Odyssée.
Ah, de l'Odyssée. Ah, bah oui, parce que vous l'avez vu, l'Odyssée de Christopher Nolan.
Exactement, je suis allé voir ce matin. Je me suis
qui
ce matin
sortait aujourd'hui. Alors, on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Et bien, est-ce qu'il est si woke que ça, surtout?
Pour commencer, connaissez-vous la boue intangible? C'est une expression vernaculaire utilisée par les historiens du cinéma pour décrire cette tendance qu'est le cinéma hollywoodien, depuis 20 ans au bas mot, à refuser la couleur, les ambiances bariolées, pour préférer systématiquement une image quasiment monochrome, qui oscille entre le sépia, le grisâtre ou le bleu livide. Un affaissement progressif des couleurs, une désaturation systématique qui serait l'opposé exact des années fastes de l'âge d'or hollywoodien et du technicolor immortalisé par Douglas Sirk ou Nicolas Ray. On peut voir dans cette tendance à peu près tout ce qu'on veut. Exigence technique des copies numériques qui réclament un étonnage toujours plus uniforme ou simple moyen de rendre crédibles des univers auxquels plus personne ne veut croire, notamment les multivers réchauffés de Marvel et consorts.
Mais à quoi correspond au juste cette mode plus généralement?
J'y vois plutôt, si on restitue cette tendance dans ce qu'on appelle vulgairement l'histoire de l'art, un simple écho de l'académisme, puis du pompiérisme, et qui traduit généralement l'épuisement d'une technique donnée avant un changement brutal de paradigme. On peut ainsi comparer ces films hollywoodiens récents, leur style guindé, leur manque total de légèreté ou de faste visuel, avec l'œuvre de certains peintres post-romantiques français comme William Bouguereau, un très bon technicien, mais entre les mains duquel les mythologies, notamment grecques, paraissaient soudain comme nécrosées, puant à naphtaline et les petites bourgeoisies du Second Empire. C'est exactement le cas de nos films de Christopher Nolan, adaptation de l'Odyssée que personne n'avait vu venir et dont personne n'avait vraiment besoin au fond. Mais c'est sans compter la morgue du cinéaste américain. Alors, on ne va pas revenir sur les polémiques assez navrantes, à mon humble avis, engendrées par l'annonce du casting. S'il y a un socle narratif sur lequel on peut tous permettre, pour moi, c'est la mythologie grecque, qui est l'art de la métamorphose, du changement. Que le casting de l'Odyssée intégrasse des acteurs transsexuels et noirs me semble donc relever d'un débat d'arrière-garde. Ovid n'a pas attendu Nolan pour se faire le chantre des mutations des sexes ou de l'interpellation des races. Non. Le vrai problème de l'Odyssée, à mon sens, c'est bien cette facture hollywoodienne qui traduit un cinéma finissant, guindé, comme incapable de produire des images nouvelles et qui se contente presque rituellement d'incorporer à son cadavre des corpus déjà laminés, usés jusqu'à la moelle, sans jamais se montrer assez frondeur pour les réinventer.
Alors c'est un aveu d'échec pour Nolan ?
Écoutez, Nolan prouve ici qu'il n'aura jamais été finalement qu'un illusionniste et non un cinéaste. C'est-à-dire un manipulateur de forme qui donne l'impression du cinéma, là où au fond il n'y a que des images d'épinal mises bout à bout, et avec des coutures grossières. C'est d'ailleurs toute la faiblesse de ce film que de laisser voir ses coutures, sa fabrication, de ne jamais laisser advenir cette fameuse suspension d'incrédulité nécessaire à l'imaginaire du spectateur. Les acteurs, les costumes, les décors, tout est tellement factice et empesé, plein d'une gravité qui flotte parfois avec le comique involontaire, notamment dans la diction compassée des acteurs, qui évoque parfois les Monty Python, qu'on se croirait presque dans un de ces opéras bouffe pompiers, conçus uniquement comme des cartons d'invitation pour les acteurs en bout de course. Alors, par exemple, aura-t-on jamais vu plus éloigné de l'idée qu'on se fait d'Ulysse, l'astucieux, que Matt Damon et son regard de bovin élevé au rang californien? Alors, bien sûr, heureusement, Nolan a un peu de métier, un art certain du cadrage, de la composition, qui laisse entrevoir ici et là quelques morceaux de bravoure. Alors oui, on a envie de suivre Charlize Theron, toujours parfaite, ici dans le rôle de Calypso. Pour le reste, cette odyssée en toc a tout d'un champ du cygne pour un cinéma hollywoodien en voie de disparition. Alors pour un peu de mythologie revue avec folie et esbrouf, on se passera plus volontiers le jeu de titans, voire God of Egypt, époussant un air d'Esproyas qui avait au moins le mérite de tenter des choses jamais vues au cinéma. Nolan lui fait tout l'inverse, il sécularise, recycle et prive d'oxygène la mythologie. Franchement, on lui en demandait pas tant.
Merci Marc Obregon, vous avez cassé notre enthousiasme. Jonathan, Sixou, vous allez quand même aller voir le film ?
Non.
Ah bon, d'accord. Bon, bah voilà, ça s'est réglé. Bah moi, je vais quand même y aller. Voilà. Hein. Bon, à 15 balles de la place, un film de 3 heures.
Bah oui,
la vie est
courte.
Ça l'amortit. Non, mais en temps de canicule, c'est climatisé.
Ça, c'est vrai.
Là, il faut amortir. Ouais. Bon, bah on oublie Nolan, on repasse à la bouffe. Qui, pour le coup, a beaucoup plus de modernité. C'est pas que le lesbrouf, parce qu'il y a des vrais sujets derrière. Hein. On signe des traités de prêt ou on attaque les Anglais, ce qui est toujours agréable. Mais une question avant de revenir sur les petits passages historiques, parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Il y en a au moins 20 dans votre livre, sur les festins, les repas en question. Alors, il y a des saisons, évidemment, parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore les trucs transgéniques, on bouffait des tomates belges au mois de janvier. Mais est-ce qu'il y avait des plats d'été, comme il y avait des plats d'hiver, comme il y avait des plats de printemps, comme on a aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, on prenait des ceviches, est-ce qu'on mangeait des salades, ou tout était cuit, recuit ?
Si, alors,
ceviche.
Il n'y avait pas de ceviche, à ma connaissance.
Bon, c'est un tartare, si vous voulez.
La viande n'était pas mangée en tartare, elle était cuite, même si elle était mangée, elle pouvait être mangée rosée ou saignante. On mange des salades relativement tôt, puisqu'elles arrivent dans les bagages de Catherine de Médicis. Et Catherine de Médicis apporte avec elle certaines sucreries, notamment du fameux frangipane et Monsieur Pastilla également, qui invente les pastilles de bonbons, qui fera fureur. Mais et aussi un art des confitures qui va assez vite se diffuser.
Elle aime aussi l'artichaut, semble-t-il.
Elle manque d'en crever, comme elle le dit elle-même à plusieurs reprises. Et elle apporte le goût de ces salades qui sont négligées parce que ça pousse à même le sol, etc. C'est pas quelque chose de très noble. Et elle va donner aux Français le goût de la salade, d'abord évidemment à la cour, et ensuite ça va se diffuser à travers le pays. Elle s'intéresse énormément à l'agronomie et elle va faire beaucoup de choses avec notamment un homme très proche d'elle à la cour, qui est un militaire mais qui écrit, qui est chroniqueur de cour et que l'on connaît, qui s'appelle Brantôme. Et ensemble, pendant près de 2 ans, ils vont faire un tour de France pour faire une sorte d'état des lieux, des cultures, et ils vont tenter notamment d'implanter la canne à sucre dans le Midi. Ça va pas fonctionner, mais ils implantent en revanche, et avec succès, les agrumes, notamment les citrons dans le Midi. C'est depuis Catherine de Médicis que cela a été vraiment rationalisé, dirais-je. Et les salades sont assaisonnées avec des vinaigrettes un peu particulières. C'est pas simplement tel qu'on l'entend, un trait de vinaigre, de l'huile, d'olive, sel, poivre et peut-être une cuillère de moutarde. Les assaisonnements sous Catherine de Médicis sur la salade verte, vraiment l'équivalent de notre laitue, ce sont du safran, des confitures, notamment mélangées à de l'huile. La feuille étant donc à ce moment-là très enrobée et elle-même très, très parfumée. Ensuite, juste pour finir votre réponse, et je retombe sur mes pattes pour vous parler de la manifestation du pouvoir. Louis XIV est le premier, avec Lacantini, son botaniste, à Versailles, à travailler les serres, l'art de la culture sous serre, pour pouvoir justement avoir tous les légumes qu'il souhaite, parce que Louis XIV arrive bien après Catherine de Médicis, il adore les salades, il adore les petits pois, évidemment, il adore énormément les légumes, et par exemple, des petits pois, il va en avoir toute l'année. Et donc ça, manger des petits pois en plein mois de décembre, si ce n'est pas une démonstration de force et de puissance, c'est-à-dire que le roi soleil arrive à contrarier la nature, à contraindre la nature elle-même pour pouvoir manger ce qu'il veut. On le verra au règne suivant. Louis XV sera le premier à faire pousser des ananas dans les serres de Versailles.
À Versailles ?
Absolument. Et le potager de Versailles est toujours cultivé aujourd'hui. Il sert de conservatoire et de lieu d'enseignement. C'est un endroit magnifique. Et donc, à partir de Louis XIV, il y a une démonstration de sa puissance à travers même ce qu'on est capable de faire à Mère Nature.
Merveilleux. Rémi, Carlu.
Moi, j'avais une autre question. C'était sur la distinction le mélange plutôt du salé et du sucré. À quel moment ça se structure ? Parce qu'encore une fois, on a l'image des banquets médiévaux dans lesquels tout est un peu mélangé. Est-ce que c'est vrai ? Et si oui, à partir de quel moment on commence à distinguer et à séparer, jusqu'à la séparation ultime entre le dessert et le plat de résistance ?
Alors, le mélange sucré-salé que vous évoquez à l'époque médiévale est un héritage direct du goût de l'Antiquité. La cuisine gréco-romaine mélange le sucré et le salé, l'aigre doux, comme on dirait aujourd'hui. Et cela se transmet siècle après siècle jusqu'à la table médiévale. Ça commence à se structurer c'est encore une fois très lent, à la table de la Renaissance, à partir du règne de François Ier, même si lui-même a des goûts personnels particuliers, il adore le sucre, et il demande à ce qu'on sucre même, comme on sucre son café, à ce qu'on sucre ses poissons, par exemple. Mais,
jamais publié, je crois. J'ai une bonne raison.
Tu sais pourquoi maintenant.
Faire le peu de pain qui lui reste.
Et la réelle séparation telle qu'on la conçoit aujourd'hui, sens, un sens moderne de séparer le sucré et le salé, arrive tardivement. Ça arrive à la fin du XVIIIe siècle. On sert, vous avez l'héritage de ce mélange qui est un peu moins mélangé, c'est-à-dire que ça ne l'est pas dans l'assiette, mais encore une fois, au XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe, vous avez un art de la présentation du festin qui s'appelle l'ambigu. Louis XIV en a donné beaucoup à Versailles. Un ambigu, c'est un buffet autour duquel vous vous attablez, mais tout est à table, le sucré et le salé. À vous de prendre ce que vous souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez, mais les plats, ce qu'on appelle des bassins, renferment uniquement du sucré ou du salé. Et vous vous servez, c'est un chef-d'œuvre de symétrie, la table, le banquet de l'ambigu. C'est d'abord un plaisir visuel, et c'est ensuite un plaisir gustatif, mais c'est vraiment à partir de la fin du XVIIIe qu'on structure réellement le cheminement de des entrées, des premiers plats, etc., en fonction des services, jusqu'aux douceurs, ce qu'on appelle d'ailleurs pendant des siècles, on n'appelle pas ça le dessert, on appelle ça le fruit, pour parler du dessert, parce qu'on mange le fruit cru, ou bien le fruit en compote, le fruit en confiture, séparé en confiture sèche et en confiture liquide.
Pardon, mais juste sur ce sujet, est-ce que cela signifie que les Anglais sont arriérés ?
Je ne me permettrai pas.
Parce qu'ils sont restés sur un salé sucré antique, je veux dire.
Ils sont restés sur un aigre doux qui est aussi, on pourrait le concevoir comme un héritage de leur grand empire, parce que les saveurs aigre douce, on les retrouve aussi en Asie, et on peut imaginer, vu l'influence que les Indes ont eue sur leur gastronomie, on peut concevoir que, enfin, c'est du moins comme ça que je le vois.
Enfin, super résultat pour des influences aussi lointaines.
Je pense qu'on ne comprend pas de dépasser Salvador Dali qui, dans sa grande folie, faisait des banquets dans lesquels il mettait en place des fruits de mer par centaines qu'il faisait vider pour les remplir de massepain, en fait, et de sucrerie. Donc pour avoir ce mélange que lui adorait de massepain légèrement imbibé d'eau de mer.
Mais le mélange,
c'était ignoble.
Le trompe-l'œil visuel, le trompe-l'œil gastronomique, est un héritage direct de la haute antiquité, où justement, où vous pouviez avoir, ça on a des descriptions à n'en plus compter, par exemple, on vous apporte un bœuf à table, un bœuf rôti, mais c'est pas le bœuf qu'on va vous servir, c'est les oisillons rôtis eux-mêmes qui sont dans le coffre du bœuf, par exemple. Ou bien des poissons. On pense qu'on va manger une pièce de viande, et ce sont en fait des produits de la mer qui sont servis aux convives.
Des plats gigognes, en fait.
Exactement.
Alors, vous nous avez parlé du banquet du faisan en 1454. On va prendre 2-3 exemples comme ça. Quand vous étiez venu en février dernier, on avait parlé de mon chapitre préféré, le siège de Paris 1870, quand les teutons empêchent les Parisiens et les assiègent, et ils crèvent la dalle, résultat, ils vident la ménagerie, et on avait parlé du fameux pied d'éléphant.
Oui.
Bon, ça, c'est quand même extraordinaire, on connaissait le pied de cochon, maintenant le pied d'éléphant, mais il y a beaucoup de choses dont on n'avait pas parlé. Alors racontez-nous les autres recettes inventées à ce moment-là, au siège, durant le siège de Paris.
Alors, on ne va pas peut-être revenir sur l'événement
les auditeurs ont compris, les teutons nous envahissent, ils nous assiègent, on crève la dalle, après avoir bouffé tout ce qu'il y avait dans les cuisines, les chiens, les rats, il ne reste plus rien, donc on va attaquer le zoo.
Avant d'attaquer le zoo, parce que le zoo et les animaux des ménageries de Paris, les deux qu'il y a à l'époque, alimentent les bouchers qui servent les grands restaurants ou les grandes brasseries. Le commun, ce sont les animaux domestiques. On estime à peu près à 250 000 le nombre de chats qui ont été croqués pendant le siège prussien. On n'a pas pu compter le nombre de rats. Ça doit être 10 fois ou 100 fois plus. Et ce qui est intéressant, je reproduis
en tout cas,
quelques...
Il n'y a plus de rats à Paris après.
Non, ça c'était plutôt efficace. On pourrait peut-être relancer l'idée. je reproduis les confidences, les mémoires d'un chef qui, après le siège, reconnaît qu'après un premier dégoût légitime et premier sentiment du dégoût d'avoir un rat à dépiauter devant lui, une fois que ce dégoût a été surmonté, il a découvert, dit-il, une chair incroyablement fine. Et il raconte toutes les déclinaisons qu'il a pu faire avec la chair de rat, et notamment des terrines, et comment la chair de rat se prête particulièrement bien à la cuisson au champagne. Et parce que les Parisiens n'avaient plus rien à manger, mais les caves de Paris ont toujours été pleines durant le siège prussien.
Cassolette de rat au champagne.
Donc il avait inventé, je de mémoire, la terrine parisienne, qui est une terrine au champagne, et à la chair de rat. Il reconnaît cependant son incapacité à avoir pu travailler la chair de chien. Il dit qu'il a tout essayé, mais que ça demeure une chair coriace qui a un goût très fort. Il a tout essayé, il l'a préparé comme un gibier, mariné dans du vin pendant une nuit, etc. Il n'y est pas arrivé. Il ne s'appesantit pas sur le chat. Il faut dire que l'histoire des Parisiens avec le chat est très ancienne. C'est d'ailleurs l'une des lois les plus anciennes qui ont été promulguées, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est l'explication que vous ayez encore aujourd'hui sur les étals des bouchers. Les lapins vendus avec leur tête, c'est le seul animal, vous remarquerez, dans les boucheries qui sont vendus avec leur tête, parce qu'une loi a été prononcée au XIVe siècle, les bouchers parisiens ayant tendance à vendre des chats pour du lapin. Il a été, au nom de l'hygiène déjà, décidé de vendre l'animal entier avec la tête. Donc il y a quand même une certaine familiarité entre le chat et le lapin à bien des égards à Paris. Mais c'est vrai que le rat est peut-être le truc le plus dégoûtant qui soit, le plus repoussant, mais cette chair serait, paraît-il, particulièrement succulente. Ensuite, pour vous répondre à ce que vous évoquiez tout à l'heure, tous les animaux des ménageries, du jardin d'acclimatation et du jardin des plantes, c'était donc les deux zoos de Paris. Il y a l'éléphant, le chef du Gléré prépare, donc lui c'était l'ancien chef du café anglais, prépare du pied d'éléphant. Tous les animaux y passent. Je pourrais vous faire la liste, mais je pourrais vous parler de kangourous, d'antilopes. Et après vous avez des restaurateurs, il y a le jeu, l'humour très parigo aussi, qui est la rédaction des menus, c'est-à-dire que pour pimenter un peu la chose, au lieu d'écrire côte de chien, on va écrire côte de loup pour donner un peu de piment à l'intitulé.
C'est plus classe.
C'est plus classe. Et il va y avoir aussi, parce que l'hiver cette année-là est très rigoureux, on ne peut même plus pêcher dans la Seine, donc il n'y a même plus de poissons à un moment donné. La glace est trop épaisse. Et donc, on se rabat sur la... Notamment, dans un premier temps, d'ailleurs, les animaux de trait, les ânes, les chevaux, évidemment. Et ce sont les premiers à passer à la casserole. Et nombre de restaurants, ça c'est Goncourt qui le raconte dans son journal, même des bons restaurants ont tendance à servir du cheval en l'appelant du bœuf, et ça, on ne la lui fait pas. Il repère tout de suite les nervures différentes, la couleur, le gras relâché par la chair du cheval, par exemple.
Les agneaux findus n'ont rien inventé.
Exactement.
Oui, ça, ils ont... Les Suédois ont déjà fait ça. Les hot dogs de cheval, là.
Boulettes de cheval.
Les boulettes. On déteste les Suédois. Autre affaire.
C'est vraiment gratuit.
La balle perdue.
Oui. On va parler d'une guerre des chefs. Alors, on ne connaissait pas la guerre de bras raccourci que c'est de l'autre. Là, c'est en 75. Remise de la Légion d'honneur à Paul Bocuse. Mm. Et là, ça tourne en bataille de chefs.
La bataille a commencé avant. C'est-à-dire que Paul Bocuse est l'héritier direct des mères lyonnaises. C'est vraiment la cuisine bourgeoise française, celle que l'on aime le plus, que l'on cultive encore aujourd'hui. C'est-à-dire la cuisine au beurre, la cuisine à la crème, les poulardes truffées que j'évoquais en début d'émission, par exemple. C'est tout ça, la cuisine de Bocuse. Il est un chef talentueux, il est un chef très ambitieux, il est mégalo et génial. Et il est le premier à ouvrir des restaurants un peu partout dans le monde. Et il est l'héritier, il ressemble énormément à Auguste Escoffier, dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, mais qui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, va vraiment faire œuvrer, ça va être le premier à faire rayonner la gastronomie française à travers le monde. Il a le sens du marketing, comme on dirait aujourd'hui. Il est d'ailleurs le premier chef de l'histoire à être décoré de la Légion d'honneur en 1919. Et il se trouve que Paul Bocuse, en 1975, est le deuxième chef à être décoré. Pour les mêmes mérites quelques décennies plus tôt l'avait été Escoffier. Et Bocuse ouvre plein de restaurants. Il a un côté, disons le mot aussi, un peu parrain. Il a besoin de tenir ses hommes, de tenir ses réseaux, et notamment dans tout le pays lyonnais, etc. Et il est aussi un très bon copain. Et c'est un meneur, il a une bande de copains. Et sa bande de copains, ce sont tous des chefs en partie, qui, eux, inventent quelque chose à la fin des années 60, qu'on va bien être obligé d'appeler par un nom. Et ce sont Go et Mio qui vont appeler ça la nouvelle cuisine. Et la nouvelle cuisine, c'est la cuisine à la vapeur, c'est le mélange terre-mer, c'est des plats, des recettes innovantes allégées, la cuisine à l'huile, on oublie le beurre par exemple. Ce sont les frères Troisgros à Roanne, c'est Eberlin en Alsace, je vous parlais tout à l'heure de Michel Guérard qui lui invente par exemple ce qui paraît absolument commun aujourd'hui, lui invente la salade folle, c'est une salade de haricots verts, mais il ajoute des magrets de canard et des cubes de foie gras par exemple. Enfin, ce sont des associations totalement aberrantes pour le bourgeois commun d'alors. Et Bocuse a tellement besoin de mettre la main sur tout, il va se faire reconnaître comme étant le chef de la nouvelle cuisine. Alors même qu'il dit publiquement qu'il ne croit qu'à la cuisine au beurre et à la crème. La nouvelle cuisine dans cette France giscardienne, cette France moderne sur la voie des réformes, etc., cette cuisine nouvelle se doit d'être reconnue et récompensée. Ben, qui on récompense ? Paul Bocuse, et pas les autres. Et Giscard, d'ailleurs, en arrivant à l'Élysée, lui qui a l'habitude des restaurants élégants et branchés de Paris dans ces années-là, fait rentrer la nouvelle cuisine à la table de l'Élysée. Bocuse va recevoir la Légion d'honneur. Il impose même à Giscard une condition. C'est que ce soit lui et ses copains qui organisent le déjeuner qui suit la cérémonie de décoration. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est la préparation de ce repas. Donc chacun de ses copains, l'un prépare, lui, Bocuse prépare l'entrée, l'autre prépare le poisson, le canard, etc. Et c'est à l'issue de cela que Bocuse, c'est pour ce repas, pardon, que Bocuse invente un plat, puisqu'il n'a inventé que deux plats de toute sa vie. Il a été vraiment un transmetteur de savoir et de tradition. Il n'a inventé que deux plats dans sa vie. Le bar en croûte, qui est toujours servi à Collonges, à son restaurant, et la fameuse soupe VGE, qui est la soupe qu'il a inventée pour l'entrée de ce fameux déjeuner, qui est une soupe avec de la volaille, du bœuf, des légumes, c'est un bouillon en fait, agrémenté de truffes, et qui est servie dans un petit poêlon refermé par un couvercle en pâte feuilletée. Cette soupe est servie à la table de Giscard ce jour-là, et Bocuse, dès le lendemain, la met à la carte de son restaurant en l'appelant soupe VGE. Il a ce génie publicitaire qui fait que pendant des années, des décennies, cette soupe va s'appeler soupe VGE, jusqu'à ce que l'ancien chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, de passage à Collonges, voit que la soupe s'appelle encore VGE. Il voit ça il y a quelques années, après la mort de Bocuse, et il fait remarquer à ses camarades que cette soupe a toujours été servie à l'Élysée bien après le passage de Giscard, et qu'elle s'est toujours appelée soupe aux truffes Élysée et non pas soupe VGE.
Moi, je la connaissais sous le nom de la soupe VGE.
Mais c'est parce que, encore une fois, c'est le génie de communication de Bocuse qui a fait rentrer dans les esprits cette appellation. Et désormais, à Collonges, cette soupe s'appelle soupe aux truffes Élysée et non plus VGE, mais ça y est, le mal est fait.
Alors, il nous reste quelques minutes, parlons du présent, parce que vous rappelez que le repas gastronomique des Français est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2010, que l'État a classé les pratiques sociales dans les bistrots et les cafés de France au patrimoine culturel et matériel, que les Français passent plus de temps à table que n'importe quel autre pays de l'OCDE, 2h13 par jour, tout ça, ça paraît bien, sauf que si on regarde de plus près, les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs de burgers juste derrière les Américains. Et les bistrots parisiens sont passés de 50% des restaurants de la capitale, il y a 30 ans, à 14% aujourd'hui. Alors comment expliquer ce décalage ? C'est-à-dire cette passion pour l'histoire, cette passion pour la bouffe. On regarde les émissions de gastronomie, c'est des émissions qui cartonnent. On est fiers de tout ça. On passe du temps à table. Et sauf que dans la tradition fait que bah en fait on passe pas du temps à manger des plats de bistrot ou des plats qui ont fait notre fierté, mais la malbouffe américaine.
Ça porte un nom, ça s'appelle un paradoxe, et c'est un malheureux paradoxe. Mais peut-être que c'est le cas dans votre entourage, dans le mien je le constate, des amateurs de bonne chair, ça leur fait aussi plaisir d'aller s'acheter un burger. C'est assez étonnant, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez aussi, parce que les Français ont tenté d'instaurer une hiérarchie dans le burger. Vous avez le burger de haute tenue, le quasi-burger bistronomique et le burger de fast-food que vous pouvez acheter sur le trottoir. Ça n'est pas franchement de la gastronomie au sens traditionnel, bistrotière française, le burger, évidemment. Bien qu'il y ait une tradition du sandwich dans le bistrot français. Tradition qui se perpétue bon an, mal an, mais le sandwich de bistrot n'est pas mort. Et il peut y en avoir d'excellents. Ensuite, il y a une réalité qui est financière. Les Français s'appauvrissent. On voit le quasi-rationnement qui pour beaucoup de familles, même des couples parfois. Et c'est vrai qu'un restaurant, voire une brasserie, bah, ça coûte plus cher qu'avant. On parlait tout à l'heure du siège de la commune. Les bistrots, les brasseries étaient pleines parce que le coût de la vie permettait de pouvoir manger dans n'importe quel, évidemment pas le grand restaurant, mais de pouvoir sortir au restaurant, comme on dit, pour se nourrir. C'est vrai que c'est devenu quasiment un grand luxe pour beaucoup de Français aujourd'hui.
Eh bien, malheureusement, l'émission touche à sa fin. C'est toujours trop court. C'est comme ça, c'est ainsi. Je rappelle donc votre livre « Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas » publié chez Perrin. Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, vous l'achetez pour cet été. Je rappelle également le numéro de Causeur, juillet-août. Hop, je cadre bien. Marianne contre Marianne, elles élèvent le débat, vous l'aurez compris. C'est une conversation entre Natacha Polony et Eugénie Bastier sur les femmes, la révolution, la guerre, la présidentielle. Voilà des femmes qui sortent de la cuisine et qui élèvent le débat. C'était un compliment. Vous pouvez également, chers amis, vous procurer le numéro d'été de l'Incorrect. On vous fait un petit guide d'été pour survivre à l'été. Oui, quoi écouter, quoi manger, comment boire sans flinguer son body summer, comme on dit, son summer body. Et puis sur quelle plage, quelle destination aller sans risquer de croiser des gens qu'on n'a pas envie de croiser en vacances. Et puis on vous raconte aussi l'histoire des bords de mer, pourquoi ils sont si moches en France. Merci De Gaulle qui a pompé Franco. Bref, chers amis, nous on se retrouve vendredi. Et oui, on fait un peu de rap. Donc vendredi, vous aurez encore un Restons Courtois avec l'équipe de l'Incorrect. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.
Ça suffit maintenant.